Alors, ce que je vais présenter, je pense, c'est un petit peu dans l'intention des organisateurs de connaître un petit peu comment ça se passe par rapport aux études coraniques dans les institutions musulmanes. C'est l'objet de cette séance. Je dois peut-être introduire par rapport aux approches que nous avons initiées dans la première session, à savoir l'approche critique, scientifique, académique, universitaire, et l'approche confessante. Cette façon de voir les choses, c'est comme on présuppose également que l'approche confessante, elle n'est pas aussi une approche qui respecte les règles académiques universitaires. Ça nous renvoie peut-être à un débat plus large en islam, tout le débat entre ce qu'on appelle la révélation et la raison. D'ailleurs, ce débat, je pense, était présent depuis les débuts de l'islam, beaucoup décrit justement, et qui part de l'idée que la religion musulmane est une religion, d'une manière générale, je ne parle pas uniquement du Coran qui est la source, est une religion qui propose des vérités religieuses, certes, mais ces vérités sont tout à fait accessibles par la raison. C'est-à-dire, on cherche toujours, et d'ailleurs je pense que c'est un souci dans la théologie musulmane d'une manière générale, l'argumentation par la raison. Et d'ailleurs, dans l'argumentation, on trouve l'argumentation par les textes et par la raison, qui ne sont pas contradictoires, qui sont toujours complémentaires. C'est-à-dire, ce souci, justement, de bien comprendre, à partir même des vérités du dogme. C'est-à-dire, on parle même que le dogme lui-même, il est basé sur la raison tout d'abord. C'est-à-dire, la conviction religieuse, c'est en quelque sorte le fruit d'une réflexion qui est menée par la raison, et on arrive après à avoir ces convictions qui vont être des convictions de départ. Et d'ailleurs, Mohamed Razali, il a traité aussi de cette question, et lui, il parlait justement que dans la connaissance, on a besoin de ces sources, ou les deux sources qui considèrent qu'ils sont complémentaires. Il a donné justement un exemple, une parabole. Il disait que la faculté de voir autour de nous, pour voir ce qui nous entoure, elle a besoin de deux conditions essentielles. Tout d'abord, une faculté de vision intacte, c'est-à-dire quelqu'un qui a les yeux, qui peut voir, mais aussi il y a une lumière extérieure qui est tout à fait nécessaire, qui va nous permettre de constater notre environnement. Et il dit que les deux conditions sont indispensables pour arriver à une connaissance. C'est-à-dire quelqu'un qui a toutes les possibilités visuelles, qu'on le met dans un endroit obscur, il va rien voir. Mais aussi quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit pas, lorsqu'avec toutes les lumières du monde, il ne va pas aussi apercevoir les choses. Et je trouve que cette façon, le fait de conjuguer à la fois la source de la raison, la source de la révélation, qui n'est pas contradictoire avec la raison, c'est quand même une approche musulmane importante. Et peut-être elle est un peu spécifique parce que la foi n'est pas fondée sur le fait de croire avant d'activer, si vous voulez, tous les raisonnements, la raison. Au contraire, dans le verset Fa'lam innahu la ilaha illallah, on fonde le principe que c'est tout d'abord la science qui doit fonder la foi. Et à partir du moment qu'on arrive à des vérités qui sont fondées par la raison, on va construire sur ces vérités-là, bien sûr. Et d'ailleurs, ce raisonnement, je pense, il est valable même pour la pensée humaine d'une manière générale. Toute personne, il a en quelque sorte des idées fortes, ce qu'il appelle des vérités pour lui, qu'elles soient relatives, mais ce sont des vérités sur lesquelles il va baser toute une réflexion. Et je pense que ça se passe de la même manière. Alors, l'expérience que je vais présenter, elle part justement de la constatation, a été rappelée tout à l'heure, que la référence coranique, la référence au Coran, elle est présente dans toutes les disciplines d'enseignement musulman. C'est-à-dire, le Coran, on le retrouve, en fait, dans toutes les matières religieuses enseignées. On revient à l'idée, justement, de la place du Coran dans la religion musulmane, quand même, est une place primordiale. Deuxième point d'introduction, cette expérience que je vais présenter, c'est une expérience de l'USH qui s'inscrit dans les études coraniques, comme elle est pratiquée dans les institutions musulmanes, mais avec quand même un essai d'adaptation par rapport au contenu, par rapport aux sujets qui sont choisis dans certaines disciplines enseignées dans les enseignements coraniques. Et les matières coraniques qui sont présentes pratiquement dans toutes les différentes formation dans les différents niveaux. C'est-à-dire, le Coran, il est, si on reprend, nous avons essentiellement l'enseignement de la théologie qui se fait sur deux cycles, et aussi l'enseignement de l'Institut du Coran. Vous trouvez que la matière du Coran, bien sûr, il y a des matières qui concernent le Coran, sont pratiquement présentes dans tous les niveaux, ce qui montre l'importance, justement, de la référence et du texte coranique dans l'enseignement. Alors, pour résumer, parce qu'il y a beaucoup de détails, j'essaie de vous donner un petit peu les visées scientifiques des études coraniques. C'est-à-dire, le programme, comme il était conçu, il visait quatre objectifs, si vous voulez, essentiels, qu'on essaie d'atteindre à travers les différentes matières. Parce qu'on essaie quand même que l'enseignement ne soit pas un enseignement quantitatif, dans le sens qu'on est avec les détails, si vous voulez, de la matière scientifique dans chaque programme, mais on essaie quand même de viser des visées scientifiques et pédagogiques. Alors il y a tout d'abord la dimension historique qui est présente, bien sûr avec sa logique dans les matières islamiques. Pourquoi comme but? C'est pour situer le texte justement dans le cadre historique de la révélation. Alors lorsqu'on parle de la dimension historique, il y a bien sûr toute l'histoire de la révélation coranique, la réception prophétique du Coran, ce qu'on appelle la révélation progressive, elle est très importante, la révélation progressive, parce que elle enseigne, à mon avis, toute une pédagogie dans l'approche du texte coranique. C'est-à-dire que le texte lui-même, qu'il soit dans cette spécificité, et on croit que c'est une spécificité coranique, que le Coran a été révélé pendant 23 ans, dans deux périodes, la période mécoise et médinoise, ça comporte un enseignement important dans la manière d'approcher justement le texte coranique. La transmission orale du Coran, récitation, tilawa, mémorisation, al-hifl, ça aussi est un sujet, bien sûr, et pour dire que la conservation du Coran dans la tradition musulmane, on le dit, ça a été fait d'une manière double, c'est-à-dire par l'écrit, mais aussi par la mémorisation. Une tradition qui est toujours maintenue. On peut se demander même aujourd'hui pourquoi. Vous avez des musulmans qui sont par milliers, centaines de milliers, peut-être à travers le monde musulman, y compris des enfants, y compris dans des pays qui ne sont pas arabophones, qui apprennent le Coran par cœur, tout le Coran. Je pense que c'est une spécificité dans le sens qu'il y a eu une volonté dès le départ que la conservation soit assurée de cette manière double, c'est-à-dire que la tradition orale, elle conforte l'écrit, mais l'écrit également qui va conforter la tradition orale. Vous avez aujourd'hui des personnes, et moi j'en connais, dans mon pays d'origine, en Tunisie, des personnes qui sont analphabètes, c'est-à-dire qui ne savent pas lire l'arabe, ce sont des arabes, mais ils n'ont jamais fait d'études, mais qui apprennent le Coran tout entier par cœur. Vous avez des petits Pakistanais, des petits qui ne comprennent rien de l'arabe, mais qui récitent le Coran, selon les règles aussi, les règles de psalmodie, tout le Coran en entier. Je pense que cette tradition qui a été maintenue, je rappelle également que le Coran, ce n'est pas seulement le texte, mais c'est les manières de récitation du Coran, ce qu'on appelle, c'est toute une science d'ailleurs, qui s'appelle la science du qira'at. Et vous avez aujourd'hui des personnes qui détiennent des chaînes de transmission qu'on peut vérifier historiquement. Il y a des livres qui ont fait un travail historique, mais approfondi, sur ces chaînes de transmission qui remontent jusqu'à l'époque du prophète, et qui témoigne pas seulement que le texte qui est lu aujourd'hui, c'est le même qui a été transmis à travers cette chaîne, mais dans les variantes de la récitation, ce qu'on appelle al-qira'at. On a parlé tout à l'heure des 10 qira'at, et vous savez, ces 10 qira'at aujourd'hui, dans le monde musulman, c'est vrai que c'est une science qui n'est pas très répandue, mais il existe aujourd'hui des maîtres qui détiennent des chaînes de transmission. Et d'ailleurs, lorsqu'on vous donne ce qu'on appelle al-ijaz à la fin de vous étudiez les qira'at, vous avez toute cette chaîne de transmission qu'elle remonte jusqu'au prophète, qu'on peut vérifier, comme j'ai dit. Il y a un grand chercheur, il y a un grand aussi maître dans la science qui s'appelle Sheikh Ibn Souid. Il a fait un livre sur ces chaînes de transmission et pendant plus de 20 ans. Il a fouillé dans toutes les références des sources historiques pour donner tous les arguments qu'il s'agit bien de cette chaîne de transmission qui est détenue jusqu'au prophète. La consignation par écrit, il y a toute la question des scribes, on m'inscrit, je passe. L'assemblage du texte coranique, tout ça, ça rentre dans cette dimension historique. L'évolution de l'écriture du livre du Coran, al-Mus'haf. Les versets mécois et les versets médinois, al-Makki ou al-Madani, qui est aussi très important parce qu'aujourd'hui, on souffre d'une certaine lecture littéraliste du Coran. qui va prendre le texte, mais en le coupant de toute dimension historique. Et c'est le grand problème aujourd'hui de ce qu'on appelle les djihadistes aujourd'hui, qui essaient de prendre un texte, mais ce texte-là, si on va le situer à travers justement les circonstances de la révélation Asbab al-Nuzul, qui sont très importantes dans la compréhension du texte. Et là, c'est très important que lier justement le texte avec ces circonstances. Bien sûr, tous les versets ne sont pas liés à des circonstances, mais il y a des circonstances d'une manière générale qu'il faut prendre en compte dans la lecture du texte d'une manière générale, bien que leur position globale, c'est que les circonstances peuvent être particulières, mais l'enseignement général du texte, il est universel. Mais quand même cet enseignement, il faut qu'il soit relativisé à la lumière de ces circonstances-là. Et c'est ça tout l'art, justement, de l'exégète, comment à la fois il part de ces circonstances, de lire le texte dans la lumière des circonstances, mais comment il peut en tirer l'enseignement général à partir de ce texte-là. Deuxième axe, si vous voulez, c'est les modes d'expression coranique. C'est-à-dire, le premier, c'est l'axe historique, pour situer le texte. Le deuxième, c'est le mode d'expression coranique, parce que on ne peut pas bien comprendre, mieux comprendre le discours coranique si on n'essaie pas aussi de maîtriser tous ces modes d'expression, moi, que j'appelle modes d'expression, c'est-à-dire les récits coraniques, qui quand même occupent une place importante, où on reprend des traditions passées. Et je pense que ça, c'est tout à fait logique dans la position du Coran, des traditions religieuses antécédentes. C'est-à-dire, le Coran, il reprend beaucoup. Et d'ailleurs, dans la foi musulmane, vous avez les six principes de la foi, dont deux principes, le fait de croire à tous les messagers et croire également au livre, au pluriel. Et alors, le fait de dire que le Coran reprend des récits bibliques, c'est tout à fait logique et normal pour un musulman, parce qu'on considère que les livres sont révélés par Dieu. Et Dieu qui a révélé l'Évangile, la Torah, etc., c'est lui qui a révélé le Coran. On trouve des vérités identiques dans les deux livres qui sont exposées peut-être de manière parfois différente. Ça ne choque pas, au contraire, ça confirme, si vous voulez, cette même source, parce qu'on croit à la source de la révélation pour tous les livres divins qui viennent de Dieu. Il y a aussi les paraboles coraniques qui ont toute une importance, si vous voulez, sur le domaine linguistique, mais il y a aussi des enseignements contenus, les sermons du Coran, l'inimitabilité du Coran, ce qu'on appelle l'ajaz, tous les travaux là-dessus, et l'univoque et l'équivoque dans le Coran, al-mahkum al-mutashab, qui est très important comme sujet, et ça a été dit tout à l'heure, c'est le Coran lui-même qui le rappelle dans un verset clair, que le Coran a été révélé dans deux catégories de textes, des textes al-muhkam, c'est-à-dire ce qui est univoque, on peut dire, ou explicite dans son contenu, et ce qui est équivoque. Et il y a, si vous voulez, un développement très intéressant, c'est les exégètes. Je peux rappeler rapidement ce que dit un des grands exégètes contemporains, Cheikh Mohamed Tahar Ben Achour, qui a fait une œuvre de tafsir très remarquable, parce qu'il a essayé quand même d'apporter du nouveau. Je confirme tout, justement ce qu'a été dit tout à l'heure. Il y a toujours les efforts des exégètes dans tous les temps qui essaient d'avancer sur les exégètes coraniques. C'est-à-dire, on dit que la parole coranique est inépuisable. Personne ne peut poser une parole pour dire que c'est la parole définitive. C'est un texte qui reste toujours ouvert à la contemplation, à la méditation, au tafsir. Alors, Cheikh Ben Achour, il essaie de dire pourquoi le Coran il est composé de ces deux sortes. C'est-à-dire que ça a été plus simple que si le Coran il était tout explicite, et comme ça, on va éviter toutes les divergences, tous les problèmes d'interprétation, etc. Il a dit pour deux raisons essentielles. La première, c'est que la religion musulmane, en tant que religion qui se propose en tant que religion dernière révélée, et puisqu'elle n'est pas limitée dans un temps bien déterminé, il faut qu'elle soit ouverte, c'est-à-dire que le texte de référence soit ouvert à tous les travaux qui vont succéder à travers les époques. On ne peut pas prétendre l'universalité tout en étant figé au niveau du texte, mais c'est un texte qui reste toujours ouvert, qui va permettre à toute époque une réflexion ouverte, c'est-à-dire ce rapport vivant avec le texte. Et la deuxième, qui est très importante, il a dit, c'est une façon pour, en quelque sorte, constituer une incitation aux gens du savoir pour aller toujours dans la recherche. Parce qu'il a dit, imaginez, si le Coran il était explicite dans tous les versets, alors ils vont dire que bon, c'est explicite, c'est Dieu qui le dit, on a tout compris, et c'est bon. Il a dit, le fait qu'il y a des textes al-mutashab, c'est une manière pour inciter au maximum tous les gens de savoir. Et pour vous dire que cette tradition pour aller dans la réflexion continue, que la réflexion n'a pas de limite, n'a pas de fin, c'est dans la logique même du texte coranique qui est composé. Et d'ailleurs, il faut dire que la majorité des textes, c'est vrai, il y a des textes essentiels, fondamentaux, concernant le dogme et l'essentiel qui sont explicites, mais pour le reste, vous avez la multiplicité de l'exégèse. Et si on revient même à l'époque du prophète, c'est-à-dire à l'époque du prophète, vous avez des grands compagnons qui sont connus comme étant des connaisseurs dans l'exégèse coranique et qui ont des avis qui ne sont pas toujours les mêmes. Et on, si on lit Tabari, vous allez trouver Ibn Abbas, il dit quelque chose, Ibn Omar, il va dire autre chose, Ibn Mas'ud, il va dire autre chose. C'est-à-dire, on est déjà dans les premiers essais d'exégèse, dans l'exégèse comparative. Et cette méthodologie comparative qui existe bien dans le fiqh, qui est dans toutes les sciences, elle est largement présente aujourd'hui, même elle est au-delà de la tradition musulmane des avis, lorsqu'on parle également des récits de Ahlul Kitab, l'Israïliyat. C'est-à-dire là, on est aussi dans une dimension comparative, historique, avec tout le patrimoine religieux qui a précédé l'islam. La troisième, si vous voulez, visée, c'est concernant l'exégèse. Et nous, pour nous, l'exégèse, qui est quand même une matière importante, comme je vais l'expliquer rapidement, le but, l'objectif, c'est pour développer une faculté de méditation sur les textes. L'exégèse n'est jamais une fin pour dire que voilà ce que Tabari a dit, voilà ce que Zamakhshari a dit. Ils ont contribué à nos idées, à développer au nous une faculté de réflexion. Mais on le dit toujours, vous avez toujours votre exégèse. On va même plus loin pour dire à tout musulman, essayez de fonder, d'établir un rapport direct avec le texte coranique. Parce que le texte qui est lu, qui est pratiqué dans les prières, je pense aussi, c'est significatif. Lorsque vous êtes en prière, vous êtes dans une relation directe avec Dieu, dans une relation avec le texte, dans la contemplation, dans la méditation, dans al-tadabbur. Et d'ailleurs, il faut revenir au nombre de textes coraniques, versets, qui incitent justement à cette méditation. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Parce qu'ils ont des cœurs cadenassés. C'est-à-dire le Coran critique cette position de le lire, mais sans avoir le cœur. Et le cœur, dans le Coran, ça veut dire également la raison, parce que le Coran, il l'a utilisé dans plusieurs contextes, pour dire que cette réflexion, elle est demandée de chacun. Rappelons que le premier verset, « Iqra, lit », c'est un ordre qui est donné à tout homme. Ce n'est pas seulement au grand savant, mais à chacun sa lecture. À chacun sa lecture, mais tu dois le lire. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. » Et d'ailleurs, ce premier verset, il est beaucoup significatif parce que la lecture, il va se faire à la fois au nom de Dieu qui a révélé, mais au nom de Dieu qui a créé. C'est-à-dire, c'est une lecture double du texte qui est contenu, apporté par la révélation, mais aussi du livre de l'univers qui nous entoure. C'est-à-dire, il y a un va-et-vient entre le texte et l'univers. Et d'ailleurs, on parle dans la tradition islamique de la lecture des deux livres. Le livre écrit et le livre qui est existant, c'est le livre de l'univers. Et ça, c'est signalé depuis. Vous voyez, toutes les sciences humaines, les sciences de l'histoire, c'est tout à fait important de connaître tout ça pour essayer justement de conjuguer les deux lectures à la fois. Parce que le Coran est un livre venu pour la vie. On ne peut pas prétendre comprendre la parole de Dieu. En la coupant justement de la vie. Alors, par rapport à l'exégèse, il y a deux matières qui sont méthodologiques et deux matières pratiques. Les matières méthodologiques, c'est plutôt sur les fondements de l'exégèse, ce qu'on appelle au sous le tafsir, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé parmi les anciens, les contemporains, quels sont les fondements, et les approches des exégètes, ce qu'on appelle manhaj al-mufassiri. Pour reprendre un petit peu la genèse de la science de l'exégèse à travers les époques, depuis l'époque prophétique jusqu'à nos jours, mais aussi les écoles et les tendances de l'exégèse. C'est-à-dire, là, on enseigne aux étudiants qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs approches. Et toutes ces approches sont intéressantes. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans une seule approche. C'est-à-dire, il y a plusieurs. Prenez un livre qui est source de Mohamed Hassin al-Dahabi qui parle de Tafsir al-Mufassiroun, qui a développé beaucoup toutes les divergences, la diversité et la richesse qui existent entre les différentes écoles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on a un problème, c'est le problème justement de la pensée unique, de prendre le texte dans une seule version d'interprétation d'exégèse, mais si on revient à la tradition, c'est une tradition qui est plutôt dans une approche comparative. Les fondements de l'exégèse qui sont établis par les savants entrent en consensus et divergence, c'est-à-dire même ces fondements ne sont pas tous des fondements où il y a nécessairement consensus. Il y a certains, par exemple le fait d'expliquer le Coran par le Coran, c'est-à-dire chercher cette harmonie entre les différents textes, c'est un des fondements autour duquel il y a un consensus. Mais sur d'autres, si on prend le Muhkam al-Mutashab, vous allez trouver des avis là-dessus, à ce Ibn Nuzul, comment il est utilisé dans la compréhension de texte, etc. Et il y a aussi les règles méthodologiques générales pour travailler sur le Coran. La question des finalités coraniques, c'est un sujet aujourd'hui qui retient l'intérêt de plusieurs chercheurs aujourd'hui. C'est-à-dire essayer de penser le Coran à travers ce qu'on appelle les grandes finalités ou les grands thèmes. Parce que là, ça permet cette approche globale qui est très importante. Parce qu'aujourd'hui, notre problème, y compris par rapport à l'islam, c'est l'approche partielle. C'est-à-dire qu'on va tirer un texte de son contexte, on va tirer une loi dans toute sa conception globale, et on va arriver justement à une compréhension biaisée. Alors ce qu'on essaie, nous, de développer, c'est cette réflexion sur les finalités, les grands thèmes, c'est-à-dire cette approche globale. Et là, je souligne un livre très intéressant d'un contemporain, Cheikh Mohamed Ghazali, le contemporain, qui a fait un livre sur le Mahaour al-Khamsa fil Qur'an, qui me paraît un essai très intéressant. Mais Cheikh Al-Ashour aussi, elle a parlé de ça pour dire qu'il y a des grands sujets sur lesquels il faut quand même se pencher lorsqu'on essaie de lire le texte coranique. Et pour Ghazali, pour lui, les cinq grands axes, il y a la question de l'unicité, qui est une question fondamentale. Après, il y a les récits. Les récits, c'est la dimension historique, effectivement. Après, vous avez après les récits, c'est... Alors, les récits, c'est le... Non, le deuxième, c'est l'univers, pardon. L'unicité de Dieu. Deuxième, c'est l'univers. Il dit, le Coran est plein de versets qui nous renvoient vers l'univers. L'univers qui est témoin de la création du Dieu. Troisième, c'est les récits coraniques. Et quatrième, c'est la résurrection et le jugement, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Et quatrième, c'est l'éducation et la législation. Parce que là, lorsqu'on enseigne tout ça, pour dire, pour relativiser aujourd'hui, une approche juridique du Coran, qui essaie justement de faire du Coran un texte pour le halal et le haram, et mettre de côté toutes ces dimensions-là. Alors, Ghazali, il l'a mis en dernier plan, et il a mis également la législation en rapport avec l'éducation. Parce que le juridique, la norme, elle n'est pas un objectif en soi, mais la norme, c'est un moyen éducatif dans la dimension spirituelle pour le croyant. Mais le fait de parler de l'univers, moi je comprends de ça, toutes les sciences qui nous permettent de comprendre l'univers. Parler des récits, c'est toutes les sciences qui concernent l'histoire, la sociologie, parce que ces récits sont présentés par le Coran pour la méditation. Et d'ailleurs, c'est dit dans Sourate Yusuf, « لَقَدْ كَانَ فِي الْقَصَصِ عِبْرَةٌ » Le Qasas, c'est pas pour, justement, le Coran n'est pas un livre d'histoire, mais citer, et compris d'ailleurs dans la façon de citer, pourquoi il cite des fragments d'histoire? Vous trouvez parfois dans des sourates, il va reprendre la même histoire, mais d'une manière différente. Parce que pour attirer l'attention sur la méditation, sur l'enseignement, sur la compréhension historique, mais c'est pas sur les faits historiques, parce que les faits historiques, c'est l'affaire des historiens, effectivement, d'aller travailler sur l'histoire. Aussi pour l'exégèse, les deux matières pratiques, l'exégèse analytique et l'exégèse thématique. Nous, on essaie, bon, l'exégèse analytique, c'est-à-dire c'est de reprendre le Coran dans le même classement connu, classique, pour essayer de donner l'exégèse en pratiquant l'exégèse tout en donnant l'importance à la linguistique, les circonstances, les variantes de qira'at, etc. C'est la méthode classique. Mais nous, on essaie de mettre en valeur une méthode nouvelle. D'ailleurs, ça date depuis presque un siècle, ça a commencé à Nazar, ce qu'on appelle « al-tafsir al-mawdu'i », c'est-à-dire l'exégèse thématique. C'est-à-dire, c'est de retenir un sujet, soit ce sujet, si c'est un sujet évoqué dans le Coran, ou un sujet qu'on va le prendre, c'est-à-dire c'est une question qui est posée intellectuellement, qu'on va essayer de l'examiner à travers une réflexion globale dans l'ensemble du Coran. Et je pense que ça, c'est très important parce qu'elle développe justement cette approche globale du texte coranique. Alors, pour finir, la quatrième visée, c'est une visée dans le sens que le Coran est un support, bien sûr, de la pratique culturelle du croyant. Et lorsqu'on est dans un institut musulman, bien sûr, c'est très important. La question de la récitation avec ses règles, la question de la mémorisation, étude bien sûr de la science des qira'at et des chaînes de transmission coranique, étude des règles de tajwid et la mémorisation avec l'ijaza que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors pour finir, pour la méthodologie de mots de l'enseignement, bien sûr il y a des cours théoriques dans les matières théoriques qui se réfèrent aux sources anciennes mais contemporaines. On essaie aussi d'avoir les deux, si vous voulez, sortes de sources. Il y a aussi des exposés, parce que surtout dans l'exégèse méthodologique ou thématique, pardon, on essaie de faire travailler les étudiants. Par exemple, moi-même j'enseigne cette matière. On essaie soit de donner la liberté à chacun de choisir un sujet qu'il va traiter à travers tout le Coran, ou on va prendre un sujet global qu'on va le diviser, si vous voulez, en sous-sujets pour travailler chacun un point. Mais dans, par exemple, cette année, on a pris le sujet l'homme dans le Coran, mais l'homme dans toutes ses dimensions, en partant justement d'une réflexion coranique sur les différents aspects relatifs à la condition humaine. Et il y a aussi des séminaires en exégèse avec des spécialistes en la matière. Voilà d'une manière assez schématique ce qu'on fait, notre expérience, qui n'est pas une expérience, bien sûr, c'est une expérience parmi d'autres. Et j'espère que ça a été clair pour vous. Merci pour votre attention.